Alors, en fait, comme vous savez certainement, il y a une rébellion qui se présente contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron et ultimement contre Hachem. Je crois que une telle rébellion n'aurait pas été possible avant le problème, avant les explorateurs. Je crois que qui que ce soit aurait dit quoi que ce soit contre Moshe Rabbeinu, il se serait littéralement exécuté sur place. Et maintenant, c'était possible parce que les Bnei Israël ont l'impression que Moshe n'a pas fait tout ce qu'il pouvait faire pour les sauver, finalement. En fait, ils n'ont pas pris conscience de la situation, surtout si on utilise l'enseignement du Gaon qui dit que la faute du veau d'or, elle a été pardonnée, mais seulement sous une forme de sursis. Et donc, quand avec les explorateurs c'est tombé, c'était un sursis. C'était déjà qu'on pouvait plus rien faire sur la faute du veau d'or, qui était une condamnation à mort du clan d'Israël. Hachem avait dit, après cela, il a dit à Moshe, ce que va le redire ici encore, il va dire, on arrête tout avec le clan d'Israël et je continue avec toi. Et Moshe l'a dit, je suis pas candidat. Mais Hachem avait d'abord dit que il allait détruire complètement le clan d'Israël. Moshe a beaucoup discuté avec lui et il a fini par obtenir ce sursis, mais malheureusement il est tombé au moment des explorateurs. Et dans les explorateurs, les Bnei Israël avaient l'habitude que quand Moshe intervenait, il gagnait bon, contre Hachem, si on peut parler comme ça, même quand il les sauvait complètement. Et là maintenant, après les explorateurs, finalement, la génération, en tout cas les hommes de cette génération qui est sortie d'Égypte, qui a passé la mer, qui était au Sinaï, etc., les hommes adultes vont disparaître. Ils sont condamnés à mort, ils vont disparaître pendant les 40 ans de pérégrination des Bnei Israël dans le désert. Et donc, quelque part, la position de Moshe n'était plus ce qu'elle était, quelque part. Maintenant, pour avoir le tableau, il y a nécessité dans la tribu de Lévi de nommer quelqu'un qui va avoir une responsabilité, une espèce de petit chef dans l'intérieur de la tribu de Lévi. Et Moshe a nommé quelqu'un sur l'ordre d'Hachem. Alors vous savez que Lévi, il a eu trois fils, et on parle de Kehat, l'un d'entre eux, qui a eu des enfants, et il y a Amram, et les deux fils d'Amram sont devenus, donc, sont Moshe et Aaron, qui ont donc la royauté et la Kehuna Gdola. Et puis, dans l'ordre de naissance, le prochain poste, il aurait dû être attribué à Korach. Mais Hachem a décidé autrement. Il a été attribué à des cousins qui, normalement, dans la liste des priorités, en quelque sorte, selon les naissances, venaient après Korach. Et Korach n'a pas supporté. Il n'a pas supporté que ce ne soit pas lui qui soit choisi. Alors, n'ayant pas supporté, ça lui convenait pas de venir réclamer pour lui quelque chose. Alors il a construit une théorie, une espèce de théorie un peu communiste quelque part, Donc, une théorie dans laquelle il n'y a plus d'hiérarchie. On n'a pas besoin de chef. D'accord? C'est-à-dire, si moi je ne peux pas être un chef, alors on n'a plus besoin, on n'a pas besoin de chef. Et donc, en particulier, si déjà je conteste, alors je ne vais pas contester pour ce poste de petit chef, je vais contester, qu'est-ce qu'on peut contester? Aaron. Voilà. Ah, il va dire à Moshe, tu n'aurais pas dû nommer ton frère Aaron à la Kehuna Agdola. Évidemment que ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui a nommé Aaron. Mais Korach le présente comme ça. Il dit, c'est pas normal. C'est du népotisme. Là, tu nommes tes proches, tes copains, etc. En fait, il conteste même Moshe, il conteste Hachem aussi, finalement. Mais bon, ça va se concentrer sur Aaron, c'est-à-dire sur la Kehuna. Alors, le problème, c'est qu'il y a, dans la tribu de Lévi, il y a deux parties. Il y a ceux qui sont restés Lévi, et il y a ceux qui sont Lévi, mais qui sont devenus Cohen, c'est-à-dire les descendants d'Aaron. Et les descendants, et donc, toute la tribu est au service d'Hachem, toute la tribu est en quelque sorte mobilisée pour cela, toute la tribu n'aura pas de territoire, etc., parce qu'ils sont requis de travailler pour Hachem, et donc n'ont pas de temps pour aller cultiver des tomates, etc. Il n'y a pas de temps. Donc ils sont entièrement dans une situation de prise en charge par le reste du clan Israël. Puisque, donc, il y a toutes sortes, il y a la Trouma, il y a le Maaser, etc., il y a Matnot Kehuna, les 24, toutes sortes de choses qu'on donne aux Kohanim, aux Levim aussi, parce qu'il faut bien les nourrir, il faut bien que le clan Israël pourvoie à leurs besoins, puisque eux-mêmes ne peuvent pas le faire, parce qu'ils sont au service d'Hachem, mais c'est-à-dire au nom de tout le clan d'Israël, ils servent Hachem. Et donc, Korach, qui est Lévi, il va, en quelque sorte, dire que, bon, il pourrait tout aussi bien être Cohen Gadol. Alors, je vais faire d'abord une toute petite parenthèse. Après, on en fait, c'est juste pour la culture générale, quoi. Le Harizal, dans le Sefer des Gilgulim, des enseignements qui sont rapportés par le Réma de Milpano, qui était un grand kabbaliste et un Talmid Chacham italien, qui a beaucoup travaillé, merci, et qui a publié, imprimé à ce moment-là, beaucoup. À la fois des svarim enfin des ouvrages qui donnaient l'enseignement du Harizal, mais surtout de Rav Moshe Cordovero, qui était beaucoup plus, un enseignement beaucoup plus large que le Harizal, qui était le maître du Harizal avant, puis après lui son élève, en Kabbale. Et il explique les choses de la manière suivante. Il explique que dans le couple Caïn et Hevel, Caïn, c'est celui qui était actif, celui qui était inventif. Hevel, c'est plutôt un suiveur qui perfectionne les choses. Il est plus un penseur, plus émouna, etc. Et l'autre est, et comme vous savez, c'est Caïn qui a tué Hevel. Donc ça veut dire, celui qui est inventif, etc., il a tué le penseur, celui qui travaille sur la émouna plutôt, qui suit. Il perfectionne, mais il n'invente pas. La Rizal dit que Moshe Rabbeinu est le Gilgoul de Hevel et Korach le Gilgoul de Caïn. Et dans cette situation-là, finalement, c'est Moshe qui va tuer Korach. Bon, c'est-à-dire c'est Hevel qui tue Caïn. C'est le... Parce qu'effectivement, quand on dit qu'il est le Gilgoul, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il vient compléter Hevel. Hevel était un type bien, mais il n'avait pas, c'était pas un chef, c'était pas un initiateur, c'était pas un inventeur. Arrive Moshe qui devient le leader et qui amène à Kai, à Hevel, la deuxième partie qui lui manque. Et Korach aurait dû aussi compléter Caïn, mais il ne l'a pas fait. Ça, il ne l'a pas fait. Il est son Gilgoul, donc il était en position de le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a pas joué son rôle. Il n'a pas joué le rôle qu'il aurait dû jouer. Il aurait dû être celui qui suit, qui perfectionne, etc. Il avait beaucoup d'éléments. D'abord, comme disent Chazal, Korach, c'était un Pikéach, c'est quelqu'un de très intelligent. Korach était quelqu'un d'extrêmement riche. Il est devenu plus riche que les autres parce que probablement il s'est mieux débrouillé dans la collecte des biens de l'armée égyptienne au moment où ces gens-là sont morts. Mais comme ils étaient venus à la bataille avec beaucoup de bijoux, etc. Le butin des Bnei Israël au passage de la mer a été bien plus important que le butin au moment de la sortie d'Égypte. Et lui, il en a pris plus que tout le monde, et donc il est plus riche que tout le monde. Donc, je referme la parenthèse pour avoir un peu, c'est un paysage en quelque sorte. Il y a plus à dire, mais bon, c'est pas le sujet maintenant. Korach, comme je vous ai dit, ça lui convient pas de protester. Pourquoi c'est pas moi qui étais nommé à ce... Voilà. Donc il va contester globalement. Mais il peut pas directement contester les nominations. Alors, il commence par dire, on n'a pas besoin de chef. Donc, on n'a pas besoin de Moshe non plus. Pourquoi? Parce que, comme il va dire, Kulam, Kolaeda, Kulam Kedoshim. Tout le monde est saint. Pourquoi? Parce que la sainteté en question, la Kedusha en question, elle provient d'avoir entendu la parole d'Hachem au Sinaï. Et tout le monde a entendu la parole d'Hachem au Sinaï. Entendu, c'est comme si. Finalement, nous, on a entendu Hachem, Moshe, ben Moshe aussi, il a simplement entendu Hachem. Bon, ça fait abstraction de la situation tout à fait particulière de Moshe Rabbeinu. Entre autres, une situation dans laquelle les Bnei Israël l'ont mis. Parce que c'est pas Moshe Rabbeinu qui a dit qu'il allait se mettre entre Hachem et les Bnei Israël. C'est les Bnei Israël, à partir de la deuxième parole, qui ont dit on veut que ce soit toi qui nous parles. C'est eux qui ont installé Moshe à cet endroit-là. Et donc, sa thèse, c'est Kulam Kedoshim. Donc, on n'a pas besoin de chef. Donc, on a besoin. L'idée, c'est comme ça. C'est tout le monde sait que quand il n'y a pas de chef, il y a quand même quelqu'un qui va devenir le chef. Par exemple, quand le clan d'Israël aura besoin d'argent, lui qui est plus riche que tout le monde, c'est lui qui va financer, donc il aura un certain pouvoir. Il est particulièrement intelligent. Il sait, bon, là aussi, ça va aider à éventuellement prendre le pouvoir. Donc il y a Korach. Et puis, à ce Korach viennent s'ajouter deux affreux, Dathan et Abiram, qui sont ceux qui ont dénoncé Moshe Rabbeinu à Paro. Bon, quand Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien, Moshe Rabbeinu avait vérifié qu'il n'y avait aucun Égyptien qu'il voyait tuer l'Égyptien. Il n'a pas fait attention, probablement qu'il y avait des Juifs qui l'ont vu et qui, eux, vont aller le dénoncer. Et donc, Moshe Rabbeinu, lui qui est prince héritier d'Égypte à ce moment-là, quasiment, il est obligé de s'enfuir. Et il va disparaître, en quelque sorte, du tableau pendant 60 ans. On va le retrouver à 80 ans. Enfin, Hachem va lui ordonner d'aller sortir les Bnei Israël d'Égypte. Bon, ça va durer 40 ans. Il est Niftar à 120 ans. Donc, il a 80 ans à ce moment-là. Il conteste évidemment aussi la Kehuna de Gdola de Aaron, les Mekoubalim dont j'ai parlé, ils disent que le Hatid Lavo, le Kohen Gadol, ce sera Korach. Parce que les Kohanim vont tous, les Levim vont tous devenir Kohanim, non plus la différence, bon, ça Kohanim, et lui, il sera le Kohen Gadol. C'est Caïn. Caïn, ça correspond à la Mida de Gvura, de la puissance. Et dans la Machloket, la fameuse Machloket Beit Shammai et Beit Hillel, nous, aujourd'hui, la halakha est comme Beit Hillel. Mais deux couples, Beit Shammai et Beit Hillel, les intrépides, etc., c'est Beit Shammai. Et l'Atid Lavo, on dit que la halakha sera comme Beit Shammai. On vient en arrière, il y a donc ces deux affreux là qui viennent. Eux, ils sont de la tribu de Réhouven. Et encore un troisième personnage dont on va parler dans cette paracha, mais on ne parlera plus jamais de lui. On n'a pas parlé de lui jusqu'alors, et on ne parlera plus de lui. Et le bonhomme s'appelle On Ben Pelet. Lui, il est surtout connu pour une chose bien particulière, c'est que ce On Ben Pelet, il a été subjugué par la puissance de parole, de séduction, etc., de Korach. Korach, c'est en plus un super bon orateur qui arrivait à convaincre les gens. Les Chazal disent que il est allé dans toutes les maisons, il est passé chez tout le monde, dans toutes les tribus, pour les convaincre, et il a quasiment convaincu tout le monde. Quand la révolte va se faire, c'est quasiment tout le clan d'Israël contre Moshe Rabbeinu. Pas seulement les quelques-uns dont on parle ici. Pourquoi tous? Tous convaincus par Korah. Et que On, il est revenu chez lui, formidable, les idées extraordinaires de Korah, etc. Et Madame On, elle lui a dit, mais t'es un crétin. Si, dans cette marloquette, si c'est Moshe qui gagne, tu seras toujours On Ben Pelet. Rien du tout. Et si c'est Korach qui gagne, ben, tu seras toujours le même. Tu n'as rien à gagner dans cette affaire. Bon, il a eu l'intelligence d'écouter sa femme, mais il lui a dit, mais je peux pas, j'ai promis que j'allais aller avec eux. Alors, on a dit, dis-moi faire. Et le lendemain matin, quand Korach, il passait pour constituer son cortège, etc. Il a frappé à la tente de On Ben Pelet. Et Madame On, c'était elle qui était devant dans la pièce la première pièce ici, et elle avait découvert sa tête, ses cheveux. Les gens de Korah, ils ont ouvert, ils ont vu une femme qui n'était pas couverte, ils sont partis. Ces gens-là, ils vont se révolter contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron, contre Hachem, mais ils ne peuvent même pas parler, ni rien du tout, ils ne peuvent pas parler avec une femme qui est découverte. Et donc, comme ça, ça a évité, elle l'a sauvé. Il est connu pour ça. Par opposition, cette Madame Pélé, la femme de Aaron, par opposition à la femme de Korah. On dit que quand on a inauguré le Mishkan et quand on a mis en service les Lévi'im, la halakha était qu'il fallait les raser complètement. Il n'y avait plus un poil. Il était Lévi, Korah, il était complètement rasé. Quand il est rentré chez lui, sa femme, elle a dit, t'as bonne mine. Tu vois ce que Moshe il te fait, il se moque de toi et ça. Mais il se l'est fait à lui-même aussi, lui aussi, les Lévi. Elle a dit, pour t'embêter et t'humilier, il est même prêt à se le faire à lui. Bon, c'est le Midrash qui dit que bon, il y a des gens dont la femme est une bonne conseillère et d'autres Alors, Korach, Yadatan, Aviram, On, et il va y avoir en plus 250 chefs, gens importants, la tribu de, tout ça, c'est des gens de la tribu de Reuven. Parce que dans la configuration du camping des Israël autour du Mishkan, dans le camp des Leviim, les gens de Korach sont à un certain endroit, et dans le camp d'Israël, ceux qui sont leurs voisins, c'est les gens de Reuven. Donc il y a une espèce de contagion. Ils étaient particulièrement sensibles au discours de Korach qui était leur voisin d'une certaine manière, et surtout que pourquoi la tribu de Reuven? Parce que comme vous savez, quand Yaakov Avinu a donné des brachot à ses enfants, quand on écoute le contenu des brachot, on est des fois assez surpris, surtout surpris qu'on appelle ça des brachot. Parce que qu'est-ce qu'il dit à Reuven? Il dit, Reuven, tu es mon premier-né, donc tu aurais dû être à la fois roi, Kohen Gadol, et avoir la double part. C'est intéressant parce que, entre autres, on voit qu'il n'y avait pas dans le projet initial, il n'y avait pas de séparation des pouvoirs. Déjà que Moshe Rabbeinu, il est à la fois un peu quoi, le législateur et aussi l'exécutif, mais en plus, il aurait dû être Kohen Gadol lui-même. Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a été privé de la Kehuna Gdola. Parce qu'il n'a pas tout de suite répondu à Hachem quand Hachem l'a envoyé, lui a dit qu'il devait aller sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Et donc les gens de Reuven, lui, il a... Bon, c'est terrible ce que Yaakov lui a fait quelque part. Alors, évidemment, c'est très important, il lui a dit, tu es un danger public. Si tu es roi ou si tu es Kohen Gadol, tu vas nous faire des catastrophes. Tu es impulsif, tu ne réfléchis pas suffisamment. Mais bon, c'est très difficile. En plus, la double part, on aurait pu lui donner, c'est... D'accord, mais... Qui est-ce qui a eu la double part? C'est Yosef. Il y a donc ces deux fils qui deviennent chacun une tribu. Alors, Reuven, les Reuvenites, ils se sont dit, en vérité, nous, on devrait avoir un rôle plus important. Nous aussi, on devrait être des chefs, puisqu'on est les descendants de la première tribu, en fait. Parce qu'on est descendu Reuven, qui est le fils aîné. Alors, ce qui va se passer, c'est, au fond, C'est tout. C'est une rébellion et tout, mais il n'y a pas de gestes tellement. Par contre, il y a des paroles. Et bon, les premiers qui parlent, c'est donc ces gens-là qui sont attroupés autour de Moshe et à Aaron, et ils leur ont dit, Rav Lachem, ça suffit. Vous en avez pris beaucoup trop. Bon, tu n'aurais pas dû, Moshe, nommer ton frère Kohen Gadol. Regardez Rashi, sur Rav Lachem. Arbe yoter midai, lakartem la'atzmechem. Gdoula. Vous avez pris beaucoup trop de Gdoula, beaucoup trop de postes honorifiques pour vous, mon cher Aaron. Alors que Kulam Kedoshim, Kulam Shamu Dvarim, le Sinaï Mipiagvura. Ou Madoua, et pourquoi Titnasou, pourquoi vous vous mettez au-dessus des autres? Si tu avais pris pour toi la royauté, alors tu n'aurais pas dû prendre pour ton frère la Kehuna. Il n'y a pas que vous qui avez entendu au Sinaï Anochi Hashem Elokecha. Kola Eda Shamu. Tout le monde a entendu. Donc c'est comme ça que commence l'affrontement entre un affrontement en parole. Rav Lachem, ça veut dire. Vous exagérez, quoi. Évidemment, tout ça s'est présenté comme si tout était le fruit d'un choix de Moshe Rabbeinu. Alors, la réponse de Moshe à cela, c'est il se prosterne à terre, il se jette à terre. C'est une réponse, d'abord, c'est une réponse muette. On ne peut même pas répondre, en fait. Commence par se jeter à terre. Rachid dit, pourquoi est-ce qu'il se jetait à terre? Mipnei Amachloket. Chez Kvarze, Beyadam, Sichon. C'est la quatrième révolte. Khatouba-Egel, ils ont fait la faute du veau d'or. Vayachel Moshe, et Moshe a réparé. Enfin, il a supplié, etc. Les Mitonenim, Vayit Palel Moshe. Ben, l'Amraglim, et à ce moment-là, Moshe, quand il a négocié avec Hachem pour atténuer les choses. Il a dit, Vayomer Moshe l'Hachem, Shamu Mitzrayim. Il lui a dit, tu vas faire un Chilul Hachem si tu fais ça. Et alors, ce qui se passe, c'est que avec la marloquette de Korach, Rashi dit, Nitrashlu Yadav. Il n'avait plus la force. Moshe Rabbeinu n'avait plus la force. Et curieusement, Rashi, il ramène un machal. Parce que c'est très clair qu'il n'avait plus la force, il n'avait plus la force. Alors regardez le machal que Rashi ramène. Ben Meler chez Sarah Chalaviv, le fils du roi qui s'est révolté contre son père. Ou bien Salav Ohavo, et l'ami du roi va plaider la cause du fils pour rabibocher les deux. parle une fois, j'arrive deux fois, trois fois. Chez Sarah, Revit. Alors quand la quatrième fois, le fils, il s'est de nouveau révolté contre le père, dit Trachelou, Yede Aore Vaou. Cet ami du roi, il n'a plus eu la force. Amar, il a dit, Admataya triach, jusqu'à quand est-ce que je peux fatiguer le roi avec toujours ses plaidoyers pour toujours rabibocher, etc. Shema loikabel od mimeni. Peut-être qu'il y a un moment où il n'acceptera plus. Et donc la question que qu'il faut poser, c'est, comme toujours, quand on amène un machal, qu'est-ce que le machal nous dit de plus que ce que Rashi avait déjà dit? Il a déjà dit que le Moshe n'avait pas la force, Nitrash Lou Yadav. Et Oavoshel Meler, aussi Nitrash Lou Yadav. Là aussi, il avait les mains. Il n'avait plus la force dans les mains. Donc la question c'est, comme toujours, quand on amène un machal, l'idée c'est que il y a des fois des choses qu'on ne peut pas dire en particulier sur Hachem. Par contre, on va prendre un machal et on va remplacer Hachem dans le machal par un roi de chair et de sang sur lequel on peut tout dire. Et donc on va dire sur le roi des choses qu'on n'aurait pas osé dire sur Hachem directement. Mais c'est bien ce qu'on veut faire passer comme message. On veut le dire sans le dire. Je le dis par le biais du machal. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit de plus dans le machal que ce qu'il a dit directement au sujet d'Hachem, au sujet de Moshe Rabbeinu, là, dans la relation entre Moshe et Hachem. Ce qu'il a dit, c'est, de nouveau, c'est qu'il a regardé le point de vue d'Hachem lui-même. C'est-à-dire que, y a un moment où de plaider pour le clan d'Israël, ça fatigue Hachem, ça veut dire au sens, bon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est trop. Et puis, mon cher Abel, il y aura peut-être un moment où il ne m'écoutera plus. Et s'il ne m'écoute pas, alors ça devait devenir très grave parce que il n'y aura personne pour défendre on ne pourra plus défendre. Mais s'il s'arrête maintenant de défendre, ben, il n'y a plus personne non plus. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? Alors en fait, c'est vrai qu'il s'est jeté à terre et qu'il n'a pas répondu à Korah directement. En première chose, il s'est jeté à terre. Mais après, Vaidaber el Korah. Et il a parlé à Korah. Et il a parlé durement à Korah. Vaidaber. Après, à Korah et à Koladato, ici, il faut entendre, parce qu'on le verra pourquoi. On va savoir pourquoi je dis ça, mais il ne parle qu'à Korach, il ne parle pas à Datan Aviram. Il parle à Korach et à Dato. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la Kehuna? Là, tu veux la Kehuna. En vérité, il l'a jamais dit, mais Moshe a compris que ce qui revendique, c'est là, je veux, puisque toi, tu as la royauté, ok, c'est bon, laisse-le. Alors, après, faut que ça soit pas un fils d'Amram qui est la deuxième position importante, alors donne-la-moi. C'est moi qui suis après vous dans la hiérarchie. Donc, donne-moi la Kehuna. Alors, Les Leviim et les Kohanim, d'après les Chachamim, si vous voulez, la séparation entre Leviim et Kohanim, c'est la même différence qu'il y a entre la gauche et la droite. Les uns sont à gauche, les autres sont à droite. Donc on ne peut pas, quand tu es à gauche, tu ne peux pas jouer le rôle de la droite. Quand tu es à droite, tu ne peux pas jouer le rôle de la gauche. Chacun doit jouer son rôle. Alors il lui dit, Boker, le matin. Le matin, ça veut dire, le soleil va se lever, on va clarifier les choses. Tu revendiques quelque chose. Alors, Veyoda Hashem et Asher Lo, on va demander à Hashem de manifester qui est proche de lui. Veta Kadosh, qui est Kadosh, c'est-à-dire qui est Kohen Gadol, Vekrivelav, et que Hachem le rapproche de lui. Qui est-ce que Hachem va rapprocher? Veta Sherifrar Bo Yakrivelav, ce qu'Hachem aura choisi, il va le rapprocher de lui. Alors Zotassou, faites ceci. Vous allez prendre des encensoirs, Korach Vecholadato. Vous allez mettre du feu, vous allez mettre du ktoret, de l'encens, et vous allez tenir ces encensoirs, le passer devant Hachem, et on verra bien, Hachem va choisir. L'encensoir, il va manifester sur l'encensoir qu'il va choisir. Et du coup, il leur répond avec les mêmes mots. Rav lachem, bnei Lévi. Vous en avez déjà beaucoup reçu. Vous êtes privilégiés. C'est vous qui êtes tout proche d'Hachem, plus que toute autre tribu. Et maintenant, tu viens, tu. Bikashtem gam keuna. Ce que dit Hachem dit à Moshe. Moshe dit à Korach. Alors, sur Boker, Veyada Hachem. Veyoda Hashem, Rashi dit, Ata et Shikruti, l'anneau. Velo Nachon, les Harot le Fanav. Moshe dit, maintenant, on est quasiment, on est un peu ivre. Cette dispute-là, c'est pas convenable de se présenter dans cet état-là devant Hachem. Donc, c'est pour ça qu'il dit demain matin. Vehu aya mitkaven, mais l'idée de Moshe, c'était, je les repousse, maintenant, Shema yarzeru bahem. Parce que peut-être d'ici demain, ils auront changé d'avis. Peut-être qu'ils auront fait tchouva d'ici demain. Alors, Boker Veyada Hashem et Asherlo, Asherlo, ce qui est à lui, la Vodat Leviya. Bon, qui va faire le travail d'Elvim? On va voir, effectivement, qui va faire le travail d'Elvim? Est-ce que c'est bien vous? Veta Kadosh, qui est la Kehuna, qui va faire le travail de la Kehuna. Veikri Votam Elav. Alors, il dit que Atargum Mochiachken. Veikri le Kadmoï. Il va mettre à son service en réalité. Et Rachidi, il y a un Midrash qui dit que le mot boker, qui veut dire c'est le matin, Amar lahem Moshe gvulot chalak akadosh baruch hu be'olamo. Hachem a mis des barrières dans son monde. Il a distingué des groupes, des endroits, des temps différents. Yucholim atem la'afor boker la'erev. Est-ce que vous pouvez faire du matin au soir? C'est des choses complètement différentes. De la même manière, vous ne pouvez pas non plus changer ce qu'Hachem a dit, que vous êtes les Lévi et Aaron il est le Cohen. C'est pas au petit bonheur la chance, on a dit ça comme ça, mais on aurait pu dire le contraire, pas du tout. Après, il y a une adéquation des gens à la tâche qui leur a été confiée. Alors Moshe dit, alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Zotassu, krou lachem martot, utnu bahem, vous allez mettre du feu, de ktoret, et vaya ish asher yifra Hashem, ou akadosh, rav lachem bnei Lévi, encore une fois. Et Moshe, il continue de parler avec Korach, et il lui dit, cette fois-ci, va yomer Moshe el Korach. Il lui parle doucement. D'abord, il lui a fait des reproches. Va yedaber. Il lui a dit, qu'est-ce que vous êtes? T'es complètement fou. Tu veux changer le monde comme ça. Et maintenant, il lui parle doucement. Il lui dit, Shimuna, écoutez, s'il vous plaît. Donc, il leur parle avec beaucoup de respect, beaucoup de gentillesse, en fait, les Lévis. Ameat Mikel. Est-ce que c'est peu de choses pour vous? Hachem, le Dieu d'Israël, vous a choisi, donc vous, parmi toutes les tribus tout le peuple d'Israël, pour vous rapprocher de lui, pour que vous soyez quasi à la Avoda dans le Mishkan, se tenir devant tout le monde, au nom de tout le monde, pour servir Hachem. Et Hachem t'a rapproché, toi et tes frères, les Lévi. Et maintenant, vous voulez aussi la Kehuna. Lachem, ata v'cholada tra no'adim al Hachem. Et toi et tout ton groupe là, qui vous tenez devant Hachem. Bien entendu, vous faites comme si j'avais décidé moi quelque quoi que ce soit. Mais Aaron, Mahou, Kitalino, Alav, qu'est-ce que vous avez à reprocher à Aaron comme s'il avait fait quelque chose? Aaron n'a rien fait du tout, il a été bombardé, Cohen Gadol, il n'a pas candidaté. Il lui dit, Lolanou, Rachid dit, Lolanou à Marloquette. Vous vous trompez complètement d'adresse. Ce n'est pas à nous qu'il faut reprocher les choses-là. Tout ce qui s'est fait parce que Hachem a décidé comme ça. Korach n'a pas répondu. Korach, Hazal disent que Korach n'a pas répondu parce que il savait que. Dans une joute oratoire contre Moshe Rabbeinu, il gagnerait pas. Il peut convaincre pratiquement tout le monde, mais pas, il n'arrivera pas à convaincre Moshe, et donc il s'est tu. Alors, Moshe Rabbeinu, il a fait appeler Datan et Aviram. Il voulait essayer de les convaincre aussi de se retirer, quoi, d'arrêter de faire des bêtises. Alors eux, ils ont répondu simplement, l'on a allé, on viendra même pas. On va monter jusque chez toi. Et du coup, ils prennent les mots de Moshe Rabbeinu, à Korach. Ameat, est-ce que c'est peu? Alors regardez ce chutzpah de ce qu'ils disent. Ki he'elitanu me'eretz zavat chalav udvash la'amitenu bamidbar. Est-ce que c'est peu que tu nous as fait monter du pays où coule le lait et le miel pour nous faire crever dans le désert? Qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent Erez Zavat Khalav de vache en Égypte. Faut quand même en avoir une couche, quand même, non? Alors, en plus, tu veux quitter Starer et tu vas nous dominer? Pas question. Tu nous as même pas amené vers ce pays où coule le lait, le miel. Tu nous as pas donné ni des champs, ni des vignes. Est-ce que tu veux aveugler les gens? On vient pas, on monte pas. Là, du coup, Vaïchar le Moshe Meod. Moshe, il a été très affecté par ça. C'est la chutzpah de. Et du coup, il a demandé à Hachem, écoute, n'accepte pas, ne n'agrée pas les encensoirs, ces gens. Et Moshe dit, Lo chamor echad mehem nasati velo areot yetz echad mehem. Alors c'est très drôle ce qu'il dit là. Il demande à Hachem, ne les écoute, enfin, n'agrée rien du tout d'eux. Et maintenant il justifie, pourquoi je te demande ça? Parce que j'ai jamais utilisé ma voiture de fonction. Je prenais toujours ma propre voiture. J'ai toujours payé moi mes déplacements, alors que c'est des déplacements pour le clan d'Israël, mais jamais j'ai utilisé l'argent du clan d'Israël. J'ai jamais lésé qui que ce soit d'entre les Bnei Israël. L'intéressant, c'est les mêmes mots que Shmuel va dire. Quand les Bnei Israël diront qu'ils veulent un roi et que Shmuel leur dit, mais vous n'avez pas besoin d'un roi, à la limite, moi je suis le roi, et enfin, le roi c'est Hachem. C'est-à-dire, ils disent, on veut un roi comme les Goïms. Et là, Shmuel, il est vexé complètement. Et là, il dit aussi à Hachem, il dit, j'ai jamais utilisé. Et lui, il était vraiment itinérant, en fait, Shmuel. Et puisqu'on parle de Shmuel, je peux rajouter à ce que j'ai dit, une des raisons pour lesquelles Korach était certain d'avoir raison, c'est qu'il savait, il a vu que dans sa descendance, il y avait Shmuel. Et Shmuel, il est plus grand que Moshe et Aaron. D'accord? Comme on dit dans les Tehillim, Moshe de Kohanav, Aaron de Kohanav, Moshe, quand Aaron de Kohanav, ou Shmuel de Koré Shmo, et Shmuel quand il s'appelle lui-même, quand il commence la prophétie, quand il est couché chez Elia Cohen, et il entend qu'on l'appelle, il va chez Elie, tu m'as appelé, et Elie lui dit, moi je ne t'ai pas appelé. Finalement, c'est lui-même qui s'appelle, c'est-à-dire ça commence la prophétie de Shmuel. Et là-bas, on dit qu'il est plus grand, Shmuel, que Moshe et Aaron. Et donc Korach, il est sûr de son coup, quoi. Pardon?
Il y avait une prophétie, quoi.
Oui, ils sont tous prophètes.
Donc, par rapport à dans la chaîne de l'information.
Oui, alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que pas les écouter, c'est parce qu'ils disent des insanités, littéralement. Alors, il dit non, non, mais qu'est-ce que j'ai rien pris. On a l'impression, en vérité, même si effectivement, HM, que même si Moshe avait été parfait, c'est lui, il a fait uniquement ce qu'HM lui a ordonné. Mais que d'un autre côté, il a eu une faiblesse et qu'il a utilisé une fois la voiture de quelqu'un ou etc., ça n'a rien à voir. En vérité, la réponse est, puisque c'est comme ça, décrit comme ça dans le texte, ça veut dire que ça a oui à voir, c'est-à-dire que être dans la position de Moshe, ça veut dire que on te laisse rien passer. Rien de rien. Même si ça n'affecte pas du tout ton rôle, mais chez Moshe, on laisse rien passer. Tout à fait, même son. Mais bon, c'est pas nécessaire, ça donne prise à des. La critique, elle est. Il y a des gus qui sont comme ça là-bas. C'est une leçon, quoi. Un leader, normalement, comme dit, il peut rien se permettre. Même si ça n'a rien à voir avec sa capacité, mais on ne peut pas tolérer qu'il y ait quelque chose de. C'est-à-dire que même si tu es un grand leader, tu es un grand général ou un grand politicien, je ne sais pas quoi, mais il y a toutes sortes de casseroles etc. C'est, en vérité, d'après la Torah, c'est insupportable. Tu ne peux pas diriger le clan d'Israël s'il y a quelque chose qu'on peut te reprocher, même si en vérité on ne peut pas vraiment te reprocher, mais tu dois aussi veiller à ce que les gens ne se trompent pas. Alors ils vont faire le test. Et ce que je voudrais dire encore pour terminer, que ils vont faire ce test. Le test va donner le résultat à Aaron, évidemment. Et ces gens-là vont mourir. Tout ce monde-là va mourir. Il y a ceux qui vont mourir absorbés par la terre qui s'ouvre. Et puis il y a ceux, les autres, les 250, eux, ils vont être brûlés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Hachem dit à Moshe de dire à Eleazar qu'il faut qu'il récupère les encensoirs. L'encensoir, c'était du cuivre, probablement, du cuivre, peut-être du laiton, je ne sais pas quoi, mais pas du cuivre, quoi. Et on a martelé tout ça et on a fait une grande plaque. Cette plaque-là, on l'a plaquée sur le misbéach. C'est-à-dire on a protégé le misbéach avec ce métal pour que le feu n'endommage pas trop le misbéach. Ça veut dire que ces encensoirs, le texte dit que bon, ils ont de la kdoucha. Pourquoi? Parce que les gens qui les ont utilisés, ils y croyaient vraiment. Ils les ont vraiment dédiés à Hachem. Mais pourquoi ils sont morts? Ils sont morts parce qu'ils pensaient, comme Korach, que n'importe qui peut se propulser Cohen. Ils sont morts de la même manière que Nadav et Avihu. C'est la même chose. Nadav et Avihu, on pensait qu'eux aussi, on apportera le Ktoret comme nous on veut. Non, tu dois l'apporter comme Hachem veut. Et eux non plus. Vous n'êtes pas Cohen. C'est pour ça que Moshe voulait qu'il se retire. Il aurait voulu que. Vous voulez être Kohanim ou tout le monde veut être Cohen, quoi, tout. Vous voulez tout ce poste, en fait. Mais Moshe, il les a repoussés en pensant que peut-être d'ici demain, ils auront fait Tchouba. Ça n'a pas marché. Et donc, ils vont tous mourir, d'une manière ou d'une autre, disparaître. Et puis, on va récupérer, malgré tout, les encensoirs. Parce que eux, les encensoirs, ils ont été dédiés par des gens qui voulaient s'approcher d'Hachem. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a suffisamment de kdoucha. C'est comme si on disait que quand quelqu'un qui n'est pas Cohen viendrait faire la avoda, bon, c'est comme si ce qu'il a fait, finalement, d'accord, il n'aurait pas dû le faire, mais c'est fait. C'est pas comme ça. La fin, elle est. un non-Cohen qui viendrait faire la avoda, et la avoda n'est pas bonne.
Il n'y a pas un remède de rebelle, c'est plein là, c'est plein qui. Il n'y a pas le remède de rebelle, c'est
Justement,
c'est un peu étrange que l'histoire soit.
bon, c'est des gens qui ils voulaient prendre l'initiative, mais la halakha, elle est qu'on ne peut pas prendre l'initiative dans le service d'Hachem. Donc c'est à la fois quasiment Avodah Zarah, puisque chez nous, c'est comme ça. C'est ou bien c'est comme Hachem, ou bien si ça ne l'est pas, alors c'est Avodah Zarah. Voilà, on va s'arrêter là.